Les Clés de Saint-Pierre, une émission présentée par Camille Langlade.
Menacée par le poids des ans, l'humidité et la pollution, la Bibliothèque Vaticane s'apprête à fermer ses portes pour 3 ans. 3 ans de travaux pour remettre l'édifice aux normes. L'occasion, dans les Clés de Saint-Pierre, de s'intéresser d'un peu plus près à ce lieu secret, mystérieux, interdit au grand public. 300 000 livres ont déjà été déménagés pour limiter la masse qui pèse sur le sol de l'édifice situé à l'intérieur du Vatican. Pendant 3 ans, étudiants et chercheurs, 20 000 au total, n'auront donc pas accès aux salles de consultation. Mais les travaux ne pouvaient plus attendre, indique en substance le cardinal Jean-Louis Torrent, archiviste et bibliothécaire de la Sainte Église romaine.
Il y a une partie de la bibliothèque, en particulier une aile du XVIe siècle, qui montrait des signes de faiblesse à cause du poids des livres. Nous avons un peu plus de 1 600 000 volumes. Et donc, les techniciens nous ont fait remarquer que le sol d'autres bâtiments commençait à céder. Donc, il fallait procéder de toute urgence à des travaux de grande envergure. Et d'autre part, il nous est apparu absolument impossible de mener ces travaux avec à côté, à quelques mètres, des chercheurs et des documents extrêmement précieux. Vous imaginez la poussière, le bruit, le va-et-vient.
Cela veut dire une fermeture totale pendant 3 ans ?
Alors, pendant 3 ans, évidemment, il ne sera plus possible de consulter les livres. Mais on pourra avoir copie des microfilms, des manuscrits et des livres anciens grâce au service de reproduction photographique. Et en outre, je signale que la Vatican Film Library de l'Université de Saint-Louis aux États-Unis possède plus de 37 000 microfilms de nos manuscrits, en plus des documents arabes, juifs et éthiopiens. Donc ça donne quand même la possibilité d'avoir accès à une partie considérable.
Qu'est-ce qui va réellement changer suite à cette rénovation ?
Alors d'abord, la sécurité des bâtiments, la sécurité des chercheurs, la sécurité du personnel, et puis je dirais aussi la préservation de tous ces documents grâce à des aires de conditionné plus modernes, humidificateurs, enfin, etc. Parce que il faut penser que nous avons des matériels extrêmement précieux. Nous avons 8300 incunables, 150 000 manuscrits, 100 000 estampes, 400 000 monnaies et médailles. Ce qu'on ne sait pas, c'est que le cabinet des monnaies est le premier du monde. En particulier, l'autre jour, j'ai vu par exemple une monnaie de l'époque d'Alexandre le Grand, en or, on dirait une monnaie frappée il y a quelques jours.
Cette rénovation imminente, c'est l'occasion évidemment de s'intéresser à cette bibliothèque apostolique. Est-ce que vous pouvez nous la présenter en quelques mots ?
S'intéresser, je dois aller quand même très fréquenter puisque nous avons plus de 20 000 chercheurs par an, donc du monde entier. Donc c'est une bibliothèque qui a une bibliothèque humaniste. Parce que les papes au XVe siècle, dont la bibliothèque a été fondée aux alentours de 1410, dont les papes ont essayé de recueillir toute la littérature latine, grecque, et puis également des traités de médecine, de géographie, enfin tout un tas de choses. Ce n'est pas une bibliothèque nationale, hein, il ne faut pas oublier. C'est une bibliothèque privée, c'est la bibliothèque des papes. Donc elle est quand même très, très sélective, si je veux dire. Il y a aussi une collection de musique qui est assez importante, des partitions. Là, le canal Tisserand, mon illustre prédécesseur, a enrichi la bibliothèque de manuscrits extraordinaires. Il a fait un grand tour dans le Moyen-Orient, il avait acheté des manuscrits. Nous avons évidemment des manuscrits de très grande valeur, en particulier les pères de l'Église.
Justement, quels sont les petits bijoux qu'on peut trouver à l'intérieur de cette bibliothèque ?
Alors, le document le plus précieux, c'est ce qu'on appelle le Codex Vaticanus du IVe siècle, qui est un des plus anciens codex de la Bible, qui a conservé pratiquement tout le texte grec de la Bible. Alors, ensuite, il y a le papyrus Bodmer, donc l'évangile de Jean et de Luc, qui remonte au IIIe siècle, la plus ancienne version de l'évangile de Jean. Ça, c'est la dernière acquisition.
Le cardinal Torrent répondait à Anthony Torzek. Ces richesses précieusement conservées attirent chaque année 20 000 chercheurs venus du monde entier. Parmi eux, 30 étudiants en français, en moyenne des doctorants accueillis par l'École française de Rome. Yannick Nexon, directeur de la bibliothèque de l'école, située au 2e étage du Palais Farnèse.
Il y a premièrement des études de philologie, comme on dit, c'est-à-dire des éditeurs de textes antiques ont toujours recours au fond des manuscrits des grandes bibliothèques d'Europe, et le Vatican a toujours 1, 2 ou 3 manuscrits importants à collationner pour un éditeur d'un auteur classique et latin. Deuxièmement, il y a des manuscrits qui sont des manuscrits du 12e, 13e, 14e qui ont été plus ou moins possédés par les papes ou par des cardinaux et qui sont plutôt des archives que des manuscrits, c'est-à-dire que ce sont des documents originaux de l'époque qui permettent à tous les chercheurs sur l'histoire religieuse de la papauté, mais donc par définition l'histoire religieuse de l'Occident, de faire des thèses originales.
Quand des étudiants boursiers viennent faire leurs études à Rome, vous leur conseillez d'aller à la bibliothèque, vous écrivez une lettre, c'est bien ça? Comment ça se passe?
Alors ça n'est pas une lettre, ça s'appelle une supplique. On a gardé le terme officiel qui était utilisé dans les siècles passés. En fait, c'est une lettre de recommandation, dirait-on en bon français, qui est adressée au Saint-Père et qui lui demande de faciliter l'accès à nos doctorants sur tel fonds précis.
Le cardinal Thorens le disait dans une interview, la bibliothèque vaticane par essence est très sélective.
Tout à fait, c'est certain. Mais quand elle s'est ouverte pour la première fois aux chercheurs, c'était à la fin du 19e siècle, les Français qui étaient à Rome et qui étaient déjà à l'école française de Rome ont été parmi les premiers à profiter de l'ouverture de cet établissement. Et nous, nos lecteurs, par définition, font partie de la sélection qui est acceptée par la bibliothèque vaticane puisqu'il s'agit de doctorants.
Pouvez-vous nous donner 2-3 exemples de thèses qui impliquent une recherche à la Bibliothèque Vaticane?
Je ne sais pas, mais il y a 2 ou 3 mois, nous avons eu un boursier, par exemple, qui travaillait sur les différentes éditions de La Légende Dorée. La Légende Dorée, c'est une vie des saints qui a été conservée en un nombre de copies manuscrites extraordinaires. Et évidemment, il y a plusieurs manuscrits très importants qui sont à la Bibliothèque Vaticane, comme il y en a d'autres dans d'autres bibliothèques aussi. Mais le chercheur doit comparer tous les manuscrits pour savoir quelle est la meilleure leçon du texte.
Vous avez eu, j'imagine, l'occasion de fréquenter la Bibliothèque Vaticane. Quelle est l'atmosphère à l'intérieur pour un chercheur?
C'est une atmosphère extrêmement studieuse et c'est une atmosphère d'autant plus studieuse que tous les livres qui sont en libre accès sont des livres de grande spécialisation. On n'imagine pas le grand public capable de se débrouiller tout seul dans les instruments de travail qui sont autour de lui. C'est vraiment, en effet, une bibliothèque de recherche.
L'actualité ces jours-ci, c'est donc la fermeture de la bibliothèque pour 3 ans, pour effectuer des travaux. Quelles sont les conséquences alors pour les étudiants, effectivement, qui ont commencé leur thèse ou qui risquent de la commencer en septembre, par exemple?
Si vous devez, comme thèse de doctorat, éditer un auteur ancien et que cet auteur ancien est représenté par un manuscrit important à la Bibliothèque Vaticane, votre seul espoir sera que ce manuscrit ait été reproduit et que la reproduction vous soit communicable. Mais ce n'est pas le cas de tous les manuscrits, et forcément, quand on édite un texte, ce n'est pas forcément le manuscrit le plus enluminé, le plus luxueux qui va vous intéresser, c'est parfois une copie qui n'aura pas été reproduite par la bibliothèque. Et il y a d'autres cas, c'est les étudiants qui, eux, ont besoin de fonds de documentation manuscrite qui sont totalement aux archives, par exemple les archives Barberini, qui sont totalement conservées dans la Bibliothèque Vaticane. Les archives Barberini, eh bien, vous ne les trouverez pas ailleurs.
La déception compréhensible de Yannick Nexon, directeur de la Bibliothèque de l'École française de Rome. Nous laissons le mot de la fin au cardinal Jean-Louis Thorens, qui depuis 4 ans fréquente la Bibliothèque Vaticane au lieu de foi et d'histoire.
Eh bien, je dirais combien le christianisme est un agent civilisateur. C'est une chose qui m'a toujours beaucoup frappé, combien la culture trouve son épanouissement dans le christianisme. Mais évidemment, c'est une souffrance de fermer cette bibliothèque, surtout à Rome, quand on pense qu'ici, Cicéron a écrit dans ses lettres à ses amis, « Si tu as une bibliothèque dans ton jardin, rien ne te manquera ». Alors malheureusement, nous allons fermer cette bibliothèque. Je suis désolé pour Cicéron.